c'est vraiment une sorte de salamande téléguidée, mais le problème complexe du contrôle de la locomotion est résolu par notre modèle moelle épinière qui est à bord du robot.
Pour contacter l'émission en direct, notre site internet impatience.rsr.ch ou par SMS au 939 en commençant votre message par « science ».
On se demande bien ce que ça peut être une salamandre téléguidée. Ben, on va le savoir tout de suite dans Impatience. L'humanité n'est qu'à l'aube de l'ère robotique. Comment, au cours de l'évolution, nous sommes passés du monde aquatique au monde terrestre, on le sait plus ou moins, Sarah Dyrenne. Il reste quand même quelques mystères. Et là, ce que vous allez nous dire aujourd'hui, c'est que ben, le modèle robotique peut beaucoup expliquer de choses et accélérer également notre compréhension de l'évolution.
Accélérer le temps, finalement, grâce à la robotique évolutionniste. C'est vrai que ces dernières semaines, dans Impatience, on a beaucoup parlé de robots, mais c'était bien poser le décor, hein. Des robots qui apprennent à apprendre, des robots qui s'inspirent du vivant, par exemple pour voler. On leur dit pas « vole ». Il se débrouille tout seul. Et puis effectivement, aujourd'hui, avec notre invitée, Sarah Mitry, eh bien, nous allons parler de robotique évolutionniste.
Sarah Mitry, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes doctorante au laboratoire de systèmes intelligents de l'EPFL. La robotique évolutionniste, c'est votre truc, à fond.
Exactement.
On va peut-être d'abord essayer de bien comprendre ce que vous entendez par le mot robot. Parce que pour la plupart d'entre nous, ben, un robot, c'est un petit bonhomme en ferraille.
Avec deux pieds.
Avec deux pieds, deux bras, et puis qui fait des tatouages. Ou alors, c'est le robot industriel, quoi. Là, ouais. C'est pas tout à fait la même chose,
hein. Ouais, ça peut être aussi un robot, mais pour nous, ou les robots avec qui on travaille, ce sont des robots, des petits robots autonomes. Et moi, je travaille avec des robots roulants, ça veut dire avec des roues. Petits, d'une taille de, je sais pas, 10 cm par 10 cm. Et voilà.
Et vous travaillez, Sarah Mitry, avec ces robots pour comprendre, en fait, la communication des fourmis. Vous travaillez avec un biologiste, Laurent Keller, spécialiste des fourmis. Oui. Et alors, comment faire? Vous programmez ces petits robots à parler entre eux, vous modélisez, vous regardez le monde animal et vous embarquez ce modèle-là sur vos robots?
Exactement. Alors, on veut faire un modèle de la vie sociale des animaux. Ça veut dire on veut avoir un groupe de robots qui communiquent entre eux et puis on veut évoluer le comportement de ces robots pour comprendre le comportement des animaux.
Alors moi, il y a quand même déjà quelque chose que je ne comprends strictement pas, Sarah Mitry, c'est est-ce que ce sont des robots qui sont programmés? Est-ce que ces robots, d'une certaine manière, copient le vivant? C'est-à-dire que vous leur induisez, vous introduisez un génome? Comment ça se passe?
Exactement, il y a un génome qui...
Mais un génome électronique alors?
Oui, exactement, un génome artificiel qui dirige le comportement du robot.
Donc il faut d'abord savoir copier électroniquement ce génome qui est strictement identique aux fourmis, par exemple.
Exactement. Alors nous, on écrit un programme qui fait l'évolution artificielle et qui utilise ces génomes et on les met dans les robots pour les tester et pour les évoluer.
Mais c'est-à-dire que vous allez utiliser plusieurs générations?
Exactement, exactement, oui.
Alors ça aussi, c'est un mystère. Comment ça se reproduit un robot?
Alors c'est juste, on a un programme qui contrôle le robot. Et ça, c'est le génome du robot. Ou ça, c'est aussi comme le cerveau du robot. Et puis, on a beaucoup de ces robots, beaucoup de ces programmes, de ces génomes. Et ça fait une population de robots. Et puis, on les teste dans les robots. Et on choisit les meilleurs robots. Alors, le meilleur comportement. Et puis, on prend ces programmes et on fait des copies. Alors, juste les meilleurs. Oui. On fait des copies des meilleurs et ça fait une nouvelle
c'est
génération.
C'est la sélection naturelle. Quoi.
Exactement, la sélection artificielle, et en voilà. Ce cas.
Alors, pour comprendre, Sarah Mitry, la communication entre les fourmis, le test, qu'est-ce que c'était? Vous mettiez plusieurs robots ensemble avec des couleurs différentes, de la nourriture, du poison?
Alors, ce qu'on a fait, c'était de faire une expérience où il y avait deux lumières dans une arène. Deux lumières rouges en fait, mais une c'était de la nourriture et l'autre c'était du poison. Et il fallait que les robots trouvent la nourriture et éviter le poison. Et du début c'était très difficile de les distinguer parce qu'ils pouvaient justement les distinguer juste très proches. Et alors la communication est aidée pour communiquer, c'est lequel qui est la nourriture.
Ils communiquent entre eux.
Exactement, ouais. Ils communiquent avec une lumière bleue. Ouais. Ça veut dire que si le robot il veut communiquer avec un autre robot, il pourrait s'allumer en bleu. Ouais. Et sinon, il ne se voyait pas.
Et donc, vous avez pu tester certaines hypothèses de Laurent Keller.
Oui.
Alors, Laurent Keller, ça, c'est les fourmis.
Et puis, c'est le biologiste. Alors, autre personne qui a pu tester des hypothèses de biologiste, c'est Hoek Isper, au laboratoire de robotique bio-inspirée. Il est fasciné par le monde vivant. Il n'est pas biologiste, mais roboticien. Et puis, spécialiste de la locomotion. Il s'est demandé comment les animaux vertébrés contrôlaient leur locomotion et surtout comment, au cours de l'évolution, eh bien, nous sommes passés du monde aquatique au monde terrestre. Alors, pour le savoir, Hoek Isper a créé un robot salamandre, vous imaginez un serpent, hein, en plot, un mobile, comme un mobile d'enfant. Je lui ai demandé, finalement, on savait comment on était passé de la nage à la marche. Qu'est-ce que cette salamandre robot nous apprend de plus ?
Non, encore, on a des idées, c'est clair, mais il y a encore beaucoup de choses qu'on ne connaît pas exactement. Tout d'abord, on ne connaît pas comment la moelle épinière est organisée pour contrôler la locomotion. Donc les biologistes ont des connaissances quand même bien poussées en termes d'organisation générale, mais les mécanismes exacts de comment tous ces neurones sont interconnectés, comment ils sont couplés aux muscles et à l'environnement, tout ça, c'est encore des questions très très complexes que personne n'a réussi à décoder proprement. Et on essaye, à notre manière, d'y contribuer un petit peu.
Alors, donc ce que vous avez fait, Hoek Isper, c'est que vous avez implanté une moelle épinière artificielle dans une salamandre. C'est tout simple à première vue.
Ouais, c'est pas si compliqué. Non, mais il y a deux, trois choses quand même compliquées. Parce qu'il faut voir qu'une moelle épinière, c'est vraiment un système compliqué. Les gens ont tendance à sous-estimer ce que font leurs moelles épinières. Et pour la locomotion, c'est vraiment la partie du cerveau qui est la plus importante. L'exemple typique, c'est qu'on peut couper la tête à un poulet, il va continuer à courir pendant un moment sans sa tête. Ça montre qu'on n'a pas vraiment besoin de la tête pour courir ou pour marcher. C'est vraiment au niveau de la moelle épinière que se résout tous les problèmes complexes de coordonner tous les muscles, etc. Et ça, c'est des réseaux de neurones, donc qui ont des centaines de milliers de neurones. Et ce sont des réseaux de neurones très sophistiqués, complexes, qu'on aimerait donc décoder.
Et que vous avez décodé.
Voilà, exactement. Donc, on s'est intéressé par exemple à la salamandre que vous avez mentionné. C'est un animal qui nous fascine parce qu'il sait très bien nager et marcher. Donc, c'est un animal assez intéressant en tant qu'amphibien. Et aussi, au niveau de l'évolution, c'est un animal clé parce qu'il fait la transition justement entre les milieux aquatiques et le milieu terrestre. Et c'est en fait l'ancêtre de tous les animaux terrestres, hein, les vertébrés terrestres. Donc, ce qu'on a réussi à décoder avec nos amis biologistes, c'est en effet comment cette moelle épinière est organisée pour permettre à l'animal de nager et de marcher. Donc on a fait des modèles mathématiques numériques qu'on a ensuite simulés sur un petit ordinateur et qu'on a mis à bord du robot. Et en ayant quelques hypothèses de base, par exemple notre hypothèse de travail, c'est que quelque part la salamandre a gardé un réseau de neurones primitifs qui ressemble beaucoup à celui de la lamproie, une sorte d'anguille primitive, et qu'au cours de l'évolution, elle a réussi à quelque part modifier ce réseau primitif pour lui rajouter des nouvelles couches, de manière à pouvoir ensuite avoir une locomotion terrestre efficace. Et c'est notre modèle en fait donne une explication potentielle de comment ce réseau est organisé pour permettre la transition de la nage à la marche.
Et ça veut dire, Hoek Isper, que la salamandre que vous avez créée ici au laboratoire a fabriqué de nouvelles connexions de neurones ?
Voilà, donc c'est nous qui avons créé le modèle, clairement, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure que la morphologie de l'animal changeait, donc c'est des choses qui se sont changées en même temps, le réseau de neurones dans la moelle épinière a créé des couches supplémentaires pour contrôler les nouvelles pattes. Et que plutôt que de devoir construire un réseau de neurones complètement nouveau pour la locomotion, il a suffi de moduler, de rajouter des nouvelles couches qui vont quelque part influencer le réseau plus primitif qui était là pour nager.
Oui, mais cette nouvelle couche, c'est vous, en tant qu'humain, qui programmez cette nouvelle couche ou vous laissez faire la salamandre qui va se débrouiller toute seule et qui va vous montrer qu'il y a une nouvelle couche ?
Non, alors là, dans ce projet-là, c'est vraiment nous qui l'avons rajouté, parce qu'on collabore avec des neurobiologistes à Bordeaux, Jean-Marie Kabelgen, qui est le spécialiste mondial de la salamandre. Et donc, eux, ils ont une bonne connaissance maintenant de l'organisation générale du réseau de neurones de la locomotion chez la salamandre. Donc, on a pris directement un peu ces données biologiques de où sont ces neurones, comment, en gros, ils sont localisés dans la moelle épinière. Et par contre, on a répondu à la question de comment tous ces neurones sont interconnectés, parce que ça c'est l'information qui manque. Et c'est là où l'outil numérique, notre simulation, simulation permet d'explorer un peu les possibilités. Quel est le type de connectivité qui est la plus probable pour expliquer le passage de la nage à la marche chez l'animal? Ce qu'on essayait d'expliquer en particulier, en effet, c'était ça notre principale contribution. On a eu cet article dans Science qui a fait du bruit, justement, parce qu'on a été les premiers à pouvoir expliquer, par exemple, une expérience assez fascinante sur l'animal. C'est le fait qu'on peut décérébrer l'animal, c'est pas très sympa, c'est-à-dire lui couper la tête. On peut stimuler sa moelle épinière, et à bas niveau de simulation, on va induire une marche. Plus on stimule, plus la marche va s'accélérer. Puis à un moment, on va passer à la nage, donc il y a un type de locomotion complètement différente. Et donc c'est assez fascinant de voir qu'un signal de commande qu'on applique au réseau, très simple, suffit pour induire des démarches complètement différentes. Donc notre modèle permet en fait d'expliquer ce qui se passe probablement dans la moelle épinière lorsqu'il y a cette transition de la nage à la marche. Par contre, donc on a le modèle qui est implémenté à bord du robot, et c'est quelque part mon doctorant, Alessandro Crespi, qui est le cerveau du robot. Donc c'est lui qui va téléguider le robot, dans le sens qu'il va, il va reproduire les signaux qu'enverrait la partie supérieure du cerveau à la moelle épinière. Et ensuite, c'est le robot avec sa moelle épinière qui va résoudre tout le problème très complexe de comment coordonner les dizaines de moteurs qui est à bord, de manière à marcher ou à nager suivant les conditions. Donc c'est vraiment une sorte de salamandre téléguidée, mais le problème complexe du contrôle de la locomotion est résolu par notre modèle de moelle épinière qui est à bord du robot.
Et du moment où qui espère que cette salamandre n'est pas autonome, qu'elle est donc téléguidée, et que vous essayez donc de comprendre l'évolution, vous interférez dans l'évolution. Vous lui dictez presque à cette salamandre, à ce robot, qu'est-ce que l'évolution ?
C'est vrai que dans ce projet-là, on ne vise pas que le robot apprenne par lui-même ou reproduise l'évolution. Donc on veut plutôt tester des hypothèses concernant l'évolution, comment le réseau de neurones dans la moelle épinière s'est réorganisé, donc on a des idées. Et le but du robot et du modèle, c'était de les valider, les tester, même faire des prédictions par rapport au monde animal qui se sont révélées correctes. Dans ce projet-là, c'était vraiment plutôt une approche scientifique de tester des hypothèses.
Est-ce que Sarah Mitry, vous informaticien, vous travaillez avec les biologistes un peu comme des prestataires de services, c'est-à-dire que les biologistes viennent avec une question bien précise et vous imaginez le robot qui va répondre à ces questions?
Exactement. Alors nous, on utilise le robot comme modèle pour les biologistes pour répondre à ces questions.
Voilà, ils viennent avec une demande et vous pensez le robot qui va...
Voilà, c'est ça.
Voilà, on verra peut-être dans une deuxième partie de l'émission que c'est quand même complexe de reproduire à l'identique le vivant. C'est Impatience, Radio Suisse Romande, la première, il est 17h25. Wow, I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would not. Sugar and spine, I feel nice. A sugar and spine, so nice, so nice. I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. Sugar and spine, I feel nice. A sugar and spine, so nice, so nice. I got you. I feel nice, a sugar and spice. So nice, so nice that I got you. Wow, I feel good. I knew that I feel good, c'était James Brown, bien sûr. J'avais une image là, juste à l'esprit qui me faisait sourire. Je me demandais si on pouvait reproduire par un modèle robotique un James Brown en miniature avec exactement le même déhanchement. Mais c'est pas tout à fait anodin si je dis ça, parce que je le disais juste avant d'écouter James Brown, c'est pas facile de reproduire de manière informatique, donc de fabriquer des robots qui reproduisent exactement le vivant, ce qui est l'un de votre travail, Sarah Mitry. Puisque vous travaillez dans le domaine de la robotique évolutionniste. Alors c'est pas simple, parce que rien qu'un simple mouvement vivant, c'est très difficile à reproduire. La locomotion, par exemple, c'est pour ça que je pensais à James Brown.
Oui, la locomotion est très difficile, c'est ce que fait Okisper dans son laboratoire, le BIRG, de laboratoire de bio-inspiré. Il travaille notamment sur un projet européen sur les bébés, c'est-à-dire comment les bébés marchent. C'est vrai qu'ils ont chacun a sa stratégie, un quatre pattes, un qui se pousse, enfin, etc. Et on perd cette diversité lorsqu'on est en marche bipède. Alors voilà, on essaie de le comprendre. C'est vrai que si on a fait d'énormes progrès en matière de marche, eh bien c'est le casse-tête des roboticiens. Comment faire pour ne pas perdre l'équilibre? On retrouve Okispert.
Absolument. Ouais. Je crois qu'on sous-estime quelque part cette sorte d'intelligence du corps que nous avons lorsque nous marchons et qui, moi, en tant que roboticien, m'impressionne énormément. Donc c'est vrai que, par exemple, il y a 50 ans, en intelligence artificielle, on pensait qu'un des problèmes les plus complexes qu'on puisse résoudre, c'est jouer aux échecs ou comme ça. Mais ça, finalement, c'est un problème assez simple pour un ordinateur. Les règles sont assez claires. On peut vraiment programmer un robot ou un ordinateur pour jouer aux échecs. Mais par contre, si on réfléchit au problème de la locomotion, comme vous dites, dès qu'on lève un pied, on est en déséquilibre. Il faut contrôler énormément de moteurs pour garder l'équilibre. Là, c'est vraiment un problème très très complexe que la nature a quelque part résolu de manière fantastique, justement en utilisant l'évolution. Et là, il y a vraiment quelque chose à gagner de l'inspiration du monde animal, justement parce que c'est typiquement un problème qui a été résolu dans le monde animal. Comment coordonner des centaines de muscles pour garder l'équilibre, pour avancer de manière efficace, pour ne pas utiliser trop d'énergie. Et c'est vrai qu'on a tendance, lorsqu'on attaque le problème, à complètement sous-estimer la difficulté du problème.
Vous disiez, Åke Isper, que ce qui manque à un robot aujourd'hui, bah, c'est sa mobilité, sa fluidité, dans la marche, par exemple. Ce qui manque aussi peut-être aux robots aujourd'hui, je parle surtout des robots humanoïdes qui pourraient nous ressembler, c'est leur émotion. Alors c'est vrai qu'il y a des expériences qui sont faites, je crois, depuis maintenant début des années 90, sur les émotions. On peut catégoriser les 6 émotions de base chez les humains. Comment implanter ces émotions-là? Quels neurones artificiels faut-il donner à ces robots pour qu'ils aient ces émotions?
En tout cas, clairement, c'est un peu relié à la notion d'émotion là, que vous relevez. Il y a cette notion de réalisme. En tout cas, quelque chose qu'on voit très rapidement lorsqu'on est face à un robot humanoïde. Là, de temps en temps, ils essayent même de leur rajouter des peaux artificielles et tout. Une chose qui est claire pour moi, qui aime le mouvement, c'est s'il n'y a pas les mêmes tics qu'on voit chez l'être humain, le clignotement des yeux ou la bouche qui se déforme et tout. Tout de suite, ça a l'air très irréel et ça fait même un peu peur. Donc, il y a cette notion de mouvement perpétuel qu'on a en tant qu'être humain qui fait qu'on a l'air vivant et c'est aussi à travers ces mouvements-là qu'on exprime nos émotions. Si je lève un sourcil, si je fais un sourire, si je fais la moue. Pour avoir du réalisme, il faut beaucoup de muscles, beaucoup d'actuateurs. Autrement, on aura toujours l'impression d'avoir devant nous un robot parce que il y aura cet aspect émotionnel qui manque, qu'on transmet pas seulement avec la voix ou la parole, mais clairement avec notre expression de visage.
Ces robots humanoïdes ne vont pas peupler notre quotidien, mais l'usage, un usage peut-être militaire, utile?
C'est vrai que c'est ce qui me ferait du souci. Moi, je suis quelqu'un qui vise vraiment des robots pour des applications civiles ou des applications biomédicales. Donc on voit maintenant en effet des robots qui sont de plus en plus utilisés pour des applications militaires. Et ça devient un peu inquiétant parce que là cette notion d'autonomie devient très importante. On ne veut surtout pas qu'un robot décide par lui-même de tirer quelque chose comme ça. Et il y a aussi un aspect, même s'il est téléguidé, il y a un aspect qui m'inquiète un petit peu, c'est que la guerre va devenir un jeu vidéo. Donc on le voit déjà maintenant par des drones qui sont quasiment autonomes, qui sont téléguidés depuis les États-Unis ou comme ça. Et la guerre devient un jeu vidéo et donc là toute la réalité de la guerre devient pas très réelle, ça devient un jeu vidéo. Donc c'est vrai que là il y a pas mal de questions à se poser. Qu'est-ce qu'on accepte, jusqu'où on va aller, jusqu'en termes d'autonomie et tout. Et ça c'est une réflexion vraiment pour la société en général.
On peut voir par exemple votre collègue Jean-Christophe Dufray ici à l'EPFL qui fait des insectes aussi bio-inspirés, des insectes volants très très légers. Il a été approché par l'armée américaine.
Ah, tout à fait. Donc là, on sait que l'armée américaine finance énormément de projets en robotique et c'est vrai que c'est quelque chose personnellement auquel je fais attention. Je trouve que c'est une réflexion de société qu'il faut avoir en effet, de jusqu'où on veut aller. Et personnellement, j'aimerais qu'on limite au maximum justement pour ces aspects que j'ai mentionnés.
Sarah Mitry, on vient d'entendre votre collègue Åke Isbert. Isbert, hein?
Isbert.
Il faut pas prononcer le T, c'est ça. S'inquiéter des applications éventuellement dérivées, perverties même de votre travail, notamment dans le domaine militaire. Vous y pensez, ça?
Non, pas vraiment. Je pense que mon travail, c'est pas directement applicable au militaire, mais c'est plutôt de la biologie, en fait.
Oui, la biologie, parce qu'on évoquait en début d'émission Darwin, hein, le rêve de certains roboticiens évolutionnistes, dont vous faites partie, Sarah Mitry, c'est de faire des robots autonomes qui évolueraient sans nous, ce qu'on appelle l'exo-darwinisme. Est-ce que c'est par exemple votre rêve ?
En fait, mon rêve, c'est vraiment de comprendre la biologie. Ça veut dire de construire des modèles, alors de comprendre le vivant et pas de créer une nouvelle vie artificielle.
Vous y pensez, ça, parfois, ça, est-ce que c'est pas quelque chose qui vous fascine en même temps que vous le faites? C'est-à-dire cette capacité à reproduire de plus en plus, de manière de plus en plus réelle, le vivant?
Si, bien sûr que ça m'inspire beaucoup et je trouve c'est ça qui m'a intéressée au sujet au début. Mais maintenant, je m'intéresse plus pour le vivant.
Parce que maintenant, c'est un ça va de soi maintenant.
Ouais. Ça vous fait pas peur parfois?
Non, on est très loin de quelque chose qui fait peur, en fait.
Merci beaucoup, Sarah Mitry, mais merci également, Sarah Dirène.
Oui, et si on veut voir vos robots qui s'allument de toutes les couleurs, c'est sur notre page internet.
Impatience. Lucille Solari.